On va essayer de terminer les croisades au XIIe siècle. Et si on peut, de commencer le XIIIe siècle. Bien, nous avions vu la dernière fois l'organisation du royaume des croisés et les différentes structures du royaume latin de Jérusalem. Nous allons continuer sur cette question. Et après avoir vu les principales villes qui était l'ossature du royaume des croisés, nous allons maintenant voir les petites villes et les villages. Les petites villes étaient des sites qui parfois avaient une importance stratégique, si bien que les croisés étaient amenés à s'y intéresser. Et ils avaient établi 18 centres qui servaient de points de défense, de fortification, pour une éventuelle contre-attaque des forces musulmanes. Néanmoins, la colonisation franque souffrira de deux handicaps majeurs qui finalement agiront et rejailliront sur l'échec définitif des croisades au siècle suivant. Le premier, c'est l'absence d'une colonisation nombreuse, ce qui fera que la population franque sera essentiellement concentrée dans les grandes villes et il y aura peu de population à distraire pour les petites villes et encore moins pour les villages. Si bien que les campagnes resteront à majorité musulmanes. Le deuxième handicap qui va freiner la colonisation franque, c'est celui auquel les Israéliens modernes se sont heurtés aussi et se heurtent encore, c'est le problème de l'eau, le manque d'eau. Seulement les croisés n'avaient pas la volonté ni les moyens qu'ont eu les Israéliens modernes pour exploiter toutes les ressources possibles en eau, si bien que le développement à la fois agricole et économique du pays a été considérablement freiné par ce problème de l'eau. Et c'est pourquoi les points de fortification étaient concentrés dans des endroits qui étaient à proximité justement de sources. Par exemple, une des petites villes qui a été fortifiée était la ville d'Atlit, qui avait été rebaptisé par les croisés Château Pèlerin et qui s'était développé autour justement du château qui avait été créé là par les croisés Atlit. C'était une ville située sur la mer qui faisait que c'était une place forte qui commandait une route qui longeait la côte et qui était vitale pour la colonisation franque puisque c'était par mer qu'arrivaient et les renforts éventuels et l'approvisionnement lorsque la pénurie se faisait sentir dans le pays, ce qui était fréquent. Une autre ville aussi qui avait une importance semblable était la ville de Gaza, qui était la frontière méridionale du pays, directement en contact avec le désert du Sinaï, par conséquent la porte de l'Égypte. Et cette ville sera détruite et reconstruite 5 fois pendant l'époque des croisades. Il y a encore là-bas les vestiges d'un château que les croisés avaient construit et qui sera réutilisé ensuite par les Mamelouks après le départ des croisés et qui sera dans un tel état de conservation que même les Anglais le réoccuperont pendant la Première Guerre mondiale pour fortifier Gaza contre les Turcs. Gaza était une base avancée pour la conquête de l'Égypte en ce qui concerne les croisés. Et lorsque Gaza tombera, ce rôle sera rempli par la ville voisine d'Ashkelon, où l'on trouve aussi un château qui a été construit par les Templiers. Une autre place forte, importante pour les croisés, était située aux sources du Yarkon, qui est une petite rivière, c'est-à-dire la deuxième rivière du pays après le Jourdain, qui se jette à peu près, si vous voulez, au nord de Tel Aviv moderne. Et les sources du Yarkon ont toujours été un endroit stratégique. Déjà à l'époque de la Bible, c'était l'endroit de la ville d'Afek qui a été l'objet de batailles nombreuses entre Israël et les Philistins, en particulier à l'époque de la Bible. Et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les Israéliens aussi, pendant la guerre de l'indépendance, il y a eu des terribles combats dans cette région qui s'appelle aujourd'hui Migdal HaEmek. Un kibbutz a été construit à cet endroit par les Israéliens. Et les croisés y avaient construit un château qui s'appelait le château de Mirabel, qui contrôlait aussi la route de Samarie. Une place forte très importante aussi était la ville de Tzfat. Tzfat, en Haute-Galilée, sur le mont Canaan, qui culmine à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui est donc un des points les plus élevés du pays, et qui était devenu, on pourrait dire, une véritable merveille du monde, tant les croisés s'étaient attachés à fortifier cet endroit stratégique. En fait, les fortifications croisées suivent à peu près la route moderne, ceux qui connaissent. Donc, plutôt la route moderne suit l'enceinte des croisés, grosso modo. C'est-à-dire que cette enceinte entourait à peu près tout le sommet du mont, bien qu'il ne reste que peu de choses de cette époque-là. Et puis au sommet de la place elle-même, il y avait un château dont l'approvisionnement précisément en eau alors était une merveille technique qui avait été construite par les croisés pour protéger ce qui était pour eux la clé de la Galilée. Tzfat était la clé de la Galilée et les Templiers en particulier étaient venus occuper cette place dans laquelle existait déjà à cette période-là une importante communauté juive. Les Tzfat sera directement menacé après le désastre des camps de Khatin dont nous avons parlé ensemble la dernière fois. Et après ce désastre-là, il restait à Tzfat une poignée de chevaliers du temple notamment, qui vont défendre contre Saladin la ville de Tzfat. Et Tzfat, grâce à la bravoure de cette poignée de chevaliers et en même temps à ses fortifications, ses approvisionnements, tiendra contre les forces de Saladin un an après le désastre des cornes de Khatin. La circonférence de l'enceinte de Tzfat faisait 858 mètres de long, avec des remparts qui s'élevaient à 25 mètres de haut, qui faisait du château de Tzfat le plus formidable château de Terre Sainte. Il était également protégé par un fossé de 15 mètres de profondeur et il était flanqué de 7 tours de 24 mètres de haut. Ce qui faisait que cette place, bien qu'importante au point de vue superficie, pouvait être défendue par fort peu de monde, ce qui a été le cas au moment du siège que nous venons d'évoquer. Il y avait une garnison de 700 hommes de guerre, c'est-à-dire qu'à la fois des chevaliers et des gendarmes, comme les appelaient, c'est-à-dire des fantassins. Et en temps de guerre, en temps d'alerte, la garnison pouvait être augmentée jusqu'à 2000 combattants. Avant le désastre des cornes de Khatin, la garnison se composait de 30 chevaliers, 33 frères converts, ce qu'on appelle les frères converts, ce sont des moines qui avaient pour mission, qui avaient des tâches, disons, diaconales. C'était eux qui s'occupaient de l'approvisionnement, du monastère, de la culture, des constructions, etc. On trouvait ensuite 50 chevaliers légèrement armés, on ne les appelait pas des chevaliers d'ailleurs, ils appelaient simplement des cavaliers. 300 opérateurs de machines de guerre, des pierriers, des mangonneaux, des engins de ce type-là. 880 travailleurs qui faisaient toutes les tâches nécessaires. Et puis 400 esclaves, parce que les croisés avaient des esclaves, bien évidemment. Autour de la place de Tzfat, il y avait 260 villages où étaient répartis 10 000 familles, en majorité arabes. Bon, il faut citer non loin de là également la place de Tzipori, qui sera l'endroit où se concentreront les forces franques au moment de la bataille des cornes de Khatyn et où sera prise la fatale décision de marcher sur Tibériade, qui, comme on l'a vu la dernière fois, tournera au désastre. Il y avait également à Ashkelon, non loin d'Ashkelon, sur la route d'Ashkelon, un très important château qui s'appelait Blanchegarde, qui gardait précisément cette route d'Ashkelon et qui formait un système de fortifications avec une deuxième place forte qui se trouvait à Yavne au sud de Tel Aviv moderne qui s'appelait Iblin. Dans les campagnes vivaient donc essentiellement des fellahs, des paysans musulmans, qui représentaient l'essentiel de la population de la Terre Sainte, c'est-à-dire 80% de la population de la Terre Sainte. En fait, depuis le 5e siècle, il y avait eu un effondrement de la population de ce que les Romains appelaient la Palestine, notamment à cause des rezous des Bédouins. Cela avait créé un climat d'insécurité permanent dans le pays qui avait amené les habitants du pays à s'expatrier. Donc il y avait déjà une population très réduite, et au moment de l'arrivée des croisés, et comme conséquence de la conquête des croisés, de nombreux paysans ont fui la Terre Sainte pour des raisons religieuses et en même temps pour des raisons politiques, craignant la main de fer des croisés et puis ne voulant pas vivre dans une terre qui était sous la domination des infidèles. Mais malgré le fait qu'une partie importante de la population locale se soit enfui au moment de l'avance des croisés, l'arrivée des croisés a donné un nouvel essor économique au pays, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Notamment, il y a eu un essor de l'agriculture, car les croisés se sont efforcés de mettre en valeur le pays. Pour les musulmans, le pays d'Israël ne représentait rien. Et ils l'avaient laissé totalement à l'abandon, que ce soit les gouvernements successifs qui l'avaient possédé, c'est-à-dire que ce soit Damas ou que ce soit l'Égypte, le pays était totalement à l'abandon et les fellahs se débrouillaient par eux-mêmes. Pour les croisés, le pays d'Israël représentait quelque chose, c'était la Terre Sainte. Et puis, finalement, dans cette région, ils n'avaient pas tellement le choix, il fallait donc mettre en valeur le pays. Et les croisés se sont efforcés de développer les ressources agricoles et économiques, industrielles, artisanales et autres du pays. Et notamment, évidemment, qui disait développement agricole, disait aussi développement de l'irrigation. Les croisés ont creusé des sources qui avaient été bouchées par les musulmans. Ils ont créé des systèmes d'irrigation et ils ont réussi jusqu'à un certain point à faire reculer aussi le désert. Ils ont créé pour cela des points de colonisation jusque à la lisière du désert lui-même, un petit peu comme le font les Israéliens au moment du retour à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle, dans une double visée, premièrement un développement économique du pays et puis aussi une défense en profondeur. On ne sait pas très bien comment était organisée cette colonisation, car après le départ des croisés, les musulmans ont fait disparaître de nombreux documents officiels, notamment les documents administratifs qui avaient été accumulés par les croisés. Mais dans les sources qui nous sont parvenues, il y a 1200 points de colonisation qui ont été répertoriés, qui comprennent 700 villages et 200 hameaux. La région la plus peuplée était la région de Tyr, qui était en même temps la plus fertile. À l'époque des Mamelouks, si on prend un point de comparaison, c'est-à-dire de la période des Mamelouks jusqu'au XIXe siècle, jusqu'à la conquête anglaise, le nombre de villages n'a absolument pas augmenté. On était encore à 700 villages, il y avait un peu plus de hameaux, mais le nombre des villages était resté le même que celui de l'époque des croisés. Les Mamelouks, en effet, au moment de la reconquête du pays, ne s'intéressaient pas davantage à cette région que leurs devanciers. Plus encore, les Mamelouks ne craignaient rien moins qu'un retour éventuellement des franges, comme ils les appelaient, des occidentaux. Et pour empêcher un pareil retour, ils se sont efforcés de mener la politique de la terre brûlée. Il y a eu donc un ravage systématique du pays, notamment la désertification par la déforestation des quelques maigres forêts qui restaient encore, et puis le ravage de toute la plaine côtière, qui était la région la plus fertile du pays, en fin de compte, puisque les croisés s'étaient surtout installés sur la plaine côtière et que s'ils devaient revenir, ils reviendraient par mer. Donc automatiquement, ce serait la région qu'ils occuperaient en priorité. Et pour empêcher qu'ils aient les moyens de s'installer, les moyens d'une nouvelle colonisation, eh bien, cette région de la plaine côtière a été systématiquement ravagée. Et cette politique a porté son fruit, effectivement, à la fin du XVIIIe siècle, les dernières années du XVIIIe siècle, lors de la campagne de Napoléon Bonaparte, Bonaparte a été obligé de retraiter, notamment parce que justement il n'avait pas trouvé de moyens de ravitaillement dans toute cette région le long de laquelle il avait progressé dans sa marche en direction d'Akko en particulier. En tout cas, à l'époque des croisés, il y avait en grosso modo 500 000 d'habitants dans le pays. C'est pas énorme, hein. Un demi-million de paysans, disons qu'il y avait, bon, ajoutons peut-être 2 millions de citadins au grand maximum, quoi. Donc ça fait maximum 200 000 citadins, donc ça fait à peu près 700 000 habitants au maximum. La plupart de ces villages étaient de tout petits villages qui ne comprenaient que quelques dizaines d'habitants. Et les croisés ont eu, par rapport à ces villages, la sagesse d'exercer une occupation assez libérale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas taxé énormément les villageois, se contentant de prélever en nature le strict nécessaire qui leur était indispensable à eux, les croisés, pour survivre. Comme ils n'étaient pas tellement nombreux, ça ne représentait pas un impôt insupportable pour les paysans. Et puis, pour ce qui était de l'administration des villages, les croisés ont laissé ça entre les mains des autorités locales arabes. Un petit peu comme font les Israéliens aujourd'hui, si bien que ça s'est à peu près bien passé. Le poids de l'occupation franque ne s'est pas tellement fait sentir au niveau du mode de vie des villageois qui finalement ont continué à mener leurs affaires comme par le passé. Les Francs ont aussi eux-mêmes construit des villages à eux. Ils avaient effectivement l'idée de s'implanter dans le pays et par conséquent, ils ont tenté aussi une colonisation rurale. Disons que ça a été l'échec. Ils n'ont pas réussi, à l'inverse de ce qu'ont fait les Israéliens, ils n'ont pas réussi à exercer une colonisation rurale et ça a aussi été une des raisons de leur échec global. Le but de cette colonisation était de pourvoir à leurs propres besoins et puis aussi de développer l'économie du pays et de promouvoir des importations, des exportations. Car le pays avait besoin évidemment d'une gamme de produits qui venaient d'Europe et la Terre Sainte, comme on l'appelait, le royaume de Jérusalem, ne pouvait pas uniquement vivre indéfiniment de la charité de l'Europe. Il fallait que, finalement, il puisse y avoir un courant d'échange qui se produise entre l'Europe et puis le royaume de Jérusalem. Et c'est pourquoi on s'est efforcé de développer l'économie. Bon, on a quelques villages qui ont été fouillés, par exemple à côté d'Arziv, on trouve des maisons à voûtes qui sont semblables aux maisons arabes. Les croisés ont copié, se sont adaptés au style du pays qui était le plus adapté. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que ces maisons-là sont construites sur un modèle de forteresse. Par exemple, les murs de ces maisons ont 2 mètres d'épaisseur. Bon, ça avait 2 avantages. Le premier, c'est que ça gardait la fraîcheur, ce qui n'était pas négligeable dans un pays comme celui-là. Mais surtout, évidemment, le but était un but de défense. En fait, c'était des villages fortifiés qui étaient ainsi créés. Bon, il y avait dans chaque village, comme chez les Arabes, un pressoir à olives et à vin, un moulin, une tour, qui pouvait servir aussi en cas de siège de refuge, et puis une hôtellerie. Ça et là aussi, on trouve des manoirs et des fermes croisées complètement isolées dans la campagne, qui, chacun d'entre eux, était construit comme une mini-forteresse. La plus célèbre, celle qui se trouve à 12 km de Jérusalem, s'appelle, que les croisés avaient appelé Aqua Bella, qui était construite sur l'emplacement d'une des rares sources qu'il y avait autour de Jérusalem, source à laquelle les croisés s'étaient abreuvés pendant le siège de Jérusalem en 1099. C'était la source qui avait alimenté toute l'armée croisée pendant toute la durée du siège. Et bien évidemment, les croisés avaient particulièrement privilégié cette source. Ils avaient construit à quelques distances sur la colline qui dominait la source un énorme château fort qui existe encore aujourd'hui, qui a été fortifié par les Arabes pendant la guerre d'indépendance en 1948 et qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui le Castel. Et sur l'emplacement de la source elle-même, les croisés avaient construit un manoir fortifié. Ça et là, dans la campagne aussi, on trouve des moulins. Les moulins qui étaient les monopoles des seigneurs du coin. À la fois, c'était des moulins à vent. Il y avait aussi des moulins à eau, là où c'était possible, et enfin, des moulins qui étaient mus par des animaux domestiques. Bon, l'approvisionnement en eau, nous l'avons dit, était le problème numéro un du royaume latin de Jérusalem. Et c'était quelque chose qui a toujours été le point faible. Le moindre déséquilibre dans le régime des pluies entraînait donc des difficultés d'approvisionnement en eau considérables. Alors, pour cela, les croisés ont construit des citernes importantes. Ils ont remis en service des citernes anciennes pour emmagasiner toute l'eau qu'il était possible de recueillir. Malgré tout, c'était quand même quelque chose qui restait jusqu'à la fin du royaume, quelque chose de très insuffisant. Les croisés avaient entre leurs différents points fortifiés des moyens de communication, notamment par les pigeons. Les pigeons voyageurs étaient moyens par lesquels ils communiquaient. Ils avaient aussi des signaux optiques, des signaux de fumée, des feux, etc., qui étaient relayés jusqu'à l'endroit où c'était nécessaire de... l'état-major. Bon, sur le plan des fortifications maintenant... Alors là, nous arrivons à ce qui est le titre de gloire des croisés. Avec les croisades, nous assistons à l'apogée de l'architecture militaire médiévale. Les châteaux de Terre Sainte sont ce que les hommes du Moyen-Âge, au point de vue château fort, ont créé de plus parfait. Il y avait plusieurs types de fortifications et plusieurs types de châteaux. Il y avait d'abord les anciennes fortifications qui ont été relevées par les croisés, soit des fortifications qui dataient des Romains ou des Byzantins, ou bien qu'ils avaient pris tout simplement aux Arabes. Les villes étaient presque toutes fortifiées, pour des raisons faciles à comprendre, puisque l'État et le pays étaient dans un état de guerre endémique. Et à l'intérieur de chaque ville, il y avait une forteresse intérieure, une citadelle, où les Européens pouvaient se réfugier en cas de chute de la fortification principale. La plupart de ces villes avaient une muraille qui faisait en moyenne 3 mètres d'épaisseur et qui n'avait qu'une seule entrée, qu'une seule porte, pour éviter les risques de chute. Une vingtaine de ces fortifications existent encore. Mais ce qui était le plus typique de l'architecture croisée, bien sûr, ce sont les fameux châteaux. Qu'est-ce que c'était qu'un château ? Un château était une place forte qui avait pour vocation d'être une base militaire permanente, où était stationnée une force chargée de contrôler tout le territoire environnant. Le rôle des châteaux forts n'était pas, comme on le croit, un rôle statique, c'est-à-dire d'opposer une défense statique, mais bien au contraire d'être le point de départ d'une défense dynamique. C'est-à-dire que le château fort était une base d'où la force qui était stationnée rayonnait. Faut écrire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un crayon? Donc, le château fort était un endroit d'où la garnison rayonnait. Et la garnison avait deux buts, un but offensif, et évidemment aussi un but défensif, le cas échéant. Mais cette défense pouvait aussi bien se faire en race campagne, hors des murs du château, hors des murs de la forteresse. Deuxièmement, les châteaux forts, notamment ceux qui étaient installés en région frontalière, avaient un rôle de centre administratif. Or, le problème stratégique auquel les Francs étaient confrontés était le manque de profondeur du pays. Ils n'avaient absolument aucune profondeur stratégique. Si bien qu'il n'était pas question, en cas d'offensive ennemie, de céder du terrain pour pouvoir mobiliser des forces. Il fallait bloquer l'ennemi dès son arrivée dans le pays, sur place, et permettre la mobilisation des réserves. Donc, les châteaux forts avaient pour but de bloquer cette offensive ennemie et d'être des centres de résistance qui cristallisaient la défense des Francs jusqu'à ce que les forces de réserve puissent venir à la rescousse des places qui étaient ainsi assiégées. En fait, les croisés n'ont fait que reprendre l'ancienne stratégie romaine qui avait été élaborée notamment sous Justinien au moment de l'apogée de l'Empire byzantin. Maintenant, dans les différents types de châteaux, dans le château fort lui-même, il y avait différents types de châteaux. Il y avait un type de château qu'on appelle le castrum. Ainsi nommé parce qu'il s'inspirait justement du camp romain. Les camps romains étaient des endroits qui étaient déjà fortifiés. Relativement, ce n'était pas une fortification très très massive, le castrum. En général, il avait une forme carrée, à l'image du camp romain. Alors, les exemples les plus typiques de ce type de structure en Israël, c'est le château de Blanchegarde, dont nous avons parlé il y a un instant. Il y avait, non loin de Tyr, un château qui était construit aussi sur ce type-là. À Mahalé Adoumim, il y a aussi les ruines d'un château du type castrum, Bet Gouvrim, et bien alors le plus spectaculaire et le plus grand est le château de Belvoir, qui surplombe la vallée du Jourdain. Il s'appelle justement Étoile du Jourdain, et qui se trouve placé sur un piton quasiment imprenable, puisque pour y accéder, il n'y a qu'un passage étroit entre deux apics assez vertigineux. Et sur le sommet de cette colline qui surplombait le Jourdain, donc la route des invasions qui venait de Damas, la route de Damas, donc c'était une place particulièrement stratégique, les croisés avaient construit un immense castrum de 130 mètres de côté, qui avait la forme d'un carré, presque parfait, avec des murs qui faisaient 10 mètres d'épaisseur. Il y avait une seule porte pour entrer dans le château, et là était stationnée une garnison qui avait pour but de charger l'ennemi, de l'engager en race campagne, dans ce qui était une défense agressive, et non pas une défense passive. En fait, le castrum n'avait pas d'autre vocation que celle-là. Ce qui fait qu'il n'était pas conçu pour pouvoir résister à un siège en règle longtemps. Il n'avait juste comme vocation que de freiner l'avance ennemie. Et logiquement, devaient venir à son secours les forces de réserve. Belvoir était, dans ce registre-là, la seule exception, en raison de sa situation stratégique et puis de l'épaisseur de ses murailles. D'ailleurs, Belvoir n'a jamais été pris. Après la bataille de Khatin, il se rendra, après une négociation avec Saladin, les défenseurs du château recevant de lui un sauf-conduit pour rejoindre les villes de la côte. Ensuite, il y avait d'autres types de châteaux qui, eux, alors avaient une vocation d'être une défense davantage passive. C'était des forteresses qui étaient construites sur des éperons montagneux, dont ils épousaient la forme. C'est pourquoi ils pouvaient prendre des formes très diverses. Le but était de rendre la colline qu'ils occupaient imprenable. Alors il y avait différents niveaux de fortification qui étaient construits sur les différents étages. Vous aviez donc la forteresse intérieure sur le sommet du Piton, et puis vous aviez en général deux, parfois davantage, deux enceintes qui suivaient les courbes de niveau de la colline, qui faisaient que, étant donné la déclivité de la pente, les différentes fortifications, différentes enceintes pouvaient s'épauler l'une l'autre. C'est-à-dire que si la première enceinte était attaquée, la deuxième enceinte qui la surplombait pouvait, depuis la deuxième enceinte, les défenseurs pouvaient venir au secours de leurs camarades qui étaient sur la première, en tirant par exemple avec des machines ou bien des arcs, des balistes ou des engins semblables sur les assaillants qui se trouvaient en contrebas. Alors, il y avait ces différentes lignes de remparts, et les plus célèbres de ces châteaux, c'est évidemment le fameux Krach des Chevaliers, le château d'Atlit, dont nous avons parlé, qui existe encore et qui est pratiquement intact, le château de Montfort, qui surplombe la vallée du Litani, et qui lui aussi était un château formidable, Safed, dont nous avons parlé, Tzfat, et puis surtout le château de Beaufort. Le château de Beaufort, alors ça, c'est un poème, il n'a jamais été pris non plus. Et le château de Beaufort, au moment des guerres du Liban, a été occupé par les Palestiniens. Au moment de l'opération Litani de 1978, le château de Beaufort, qui était le repère des Palestiniens, a été attaqué par l'aviation israélienne pendant des heures et des heures. Aucune égratignure, rien. Rien. Il a fallu qu'il soit pris d'assaut en 1982, au moment de l'opération Paix pour la Galilée, ou après un siège en règle, quoi, avec toutes les techniques modernes pour réussir à occuper ce château qui est un chef-d'œuvre de l'architecture militaire jusqu'à aujourd'hui, qui est encore utilisable aujourd'hui. Donc, l'exemple de Beaufort montre que ces châteaux étaient capables de résister à de très très longs sièges. Il y avait pour cela des réserves de vivres importantes, d'armes, des citernes qui permettaient de récolter toutes les gouttes d'eau qui pouvaient tomber dans les environs, et qui permettaient aussi que ces structures-là soient tenues par un petit nombre d'hommes, car c'était, n'oublions pas, le problème aussi des croisés, d'avoir une force, un personnel militaire des plus restreints. C'était un de leurs grands points faibles. À côté de cela, il y avait des forteresses frontalières qui alors étaient beaucoup plus légères, qui étaient inspirées des limes qui dataient de l'époque des Romains, nous en avons déjà parlé, des petites fortifications aux frontières, notamment en bordure du désert, reliées les unes aux autres par des routes et qui pouvaient communiquer par signaux optiques ou bien par estafette rapide à cheval. Et qui avait aussi pour but de freiner en particulier les pillards du désert, contrôler que les pillards du désert ne viennent pas à effectuer des raids, et en cas évidemment d'invasion par une force organisée, de constituer une ligne élastique de défense qui freinerait l'invasion ennemie jusqu'à l'arrivée du gros des forces, ce qui était d'ailleurs exactement la stratégie des Israéliens en 1973, au moment de la guerre du Kippour, dans ce qu'on appelle la ligne Barlev, qui était le long du canal de Suez et qui avait exactement la même vocation. Le problème, c'est que les chevaliers manquaient de manœuvrabilité. La charge croisée était terrible, nous l'avons vu, la charge des chevaliers cuirassés était terrible. Mais si la charge ratait, alors pour se réorganiser et pour relancer une deuxième charge, ça prenait du temps. Et c'est pourquoi les croisés avaient intérêt à ne pas louper leur coup, et on sait que ce qui lancera notamment au moment de la fameuse bataille des cornes de Khatim, où les chevaliers devront se réorganiser pour lancer des charges à contre-pente, qui amènera le désastre que nous avons évoqué. Les Arabes, au contraire, avaient une cavalerie légère qui leur permettait une réorganisation très rapide. Et c'est pourquoi les croisés, d'une manière générale, refusaient les batailles décisives, sauf à Khatim, ils ont été mal inspirés en ce faisant. Et ils préféraient s'enfermer dans les forteresses. Ce qui obligeait les Arabes à entreprendre des sièges longs et coûteux. Et pour pouvoir attaquer les châteaux forts, les Arabes devaient employer des forces souvent très considérables. Les croisés construisaient donc ces fortifications à des endroits stratégiques, mais aussi qui étaient tactiquement suffisamment forts. Et puis, logiquement, le château fort faisait partie d'un ensemble. Le château fort n'était pas quelque chose qui était isolé, mais il s'appuyait sur d'autres châteaux forts qui étaient voisins avec lesquels il communiquait par pigeon voyageur ou par signe optique. Si bien que s'il y avait un problème, hop, les châteaux forts pouvaient se prêter main forte, les garnisons venant au secours de celui qui était menacé. Bien, les principaux châteaux de Terre Sainte, outre Belvoir, que nous avons évoqués il y a un instant, qui a soutenu un siège de 18 mois avant de négocier sa reddition. Belvoir aussi, c'est à signaler un détail intéressant, c'est que c'est un double castrum, en fin de compte. Il y a deux camps, deux enceintes, en fin de compte. Il y avait, face à la route de Damas, plutôt, un autre château fort qui s'appelait Château Neuf. Et puis, entre Tibériade et Damas, il y avait le fameux Châtelet, qui alors lui était un formidable château, qui hélas finira par être pris par les Arabes et ça se retournera contre les croisés. Un des plus formidables aussi était le Krach des Chevaliers, au Liban, où 2000 hospitaliers étaient basés. Après la première croisade, il ne restera plus en Terre Sainte que 1200 chevaliers et 10 000 piétons. Là, c'était un moment particulièrement critique. Et le petit nombre de soldats faisait que les chevaliers devaient avoir une disponibilité permanente. Ils étaient constamment sur pied de guerre. Les chevaliers étaient à la disposition permanente du roi de Jérusalem, qui était assisté par 4 conseillers qui avaient rang de baron. À côté des chevaliers, il y avait les piétons, qui étaient fournis par les chrétiens locaux, les chrétiens orientaux, qui étaient mobilisables à ce niveau-là. Et puis, au besoin, pour compléter un peu les effectifs, on n'hésitait pas à enrôler des mercenaires musulmans, avec tous les risques et périls que ça pouvait représenter en cas où les choses tournaient mal, et éventuellement aussi, dans les temps de crise, on mobilisait les éventuels pèlerins qui étaient venus faire leur dévotion sur place. Bien, il y avait des réseaux de défense qui protégeaient également les routes et qui communiquaient avec les centres de colonisation. De l'autre côté du Jourdain, il y avait le Krach de Moab et le château de Montréal. Ces châteaux aussi renseignaient le pouvoir central sur les éventuels mouvements de l'ennemi. À Akko, il y avait tout autour de cette place si importante un certain nombre de châteaux qui le protégeaient. Athlite, dont nous avons parlé il y a un instant. Et à Césarée, il y avait un château très important qui s'appelait Château Pèlerin. On trouvait également autour d'Akko d'autres châteaux tels le Châtel Rouge et Montferrand. Bien, la plupart de ces châteaux ont été construits à la fin du XIIe siècle. En fin de compte, cela représentait 31 forteresses de grande taille, sans parler des châteaux, des fortifications plus petites. Ce qui fait que nous avions vraiment affaire à un état militaire. Un état qui était sur pied de guerre permanent. Quelles étaient les techniques de siège et comment pouvait-on s'emparer des châteaux? Il y avait trois types d'attaques d'un château. L'attaque frontale, l'attaque par brèche et puis le siège en règle. L'attaque frontale, c'était l'assaut du château qui était donné par l'escalade au moyen essentiellement d'échelles. D'échelles que l'on appuyait sur les fortifications. Inutile de vous dire qu'il fallait un certain courage pour pouvoir s'aventurer dans de telles conditions. Et il fallait être sûr qu'il y avait une défense assez molle de la part des défenseurs pour tenter une attaque de ce type-là. Souvenons-nous qu'en 1099, au moment de l'attaque de Jérusalem, la première attaque qui a abouti à un échec d'ailleurs, a été une attaque de ce type, une attaque frontale. La deuxième manière de faire, c'était la brèche. Alors la brèche était préparée par des bombardements au moyen de machines. Bon, les machines, c'était finalement les mêmes machines que celles qui avaient été employées par les Romains, qui avaient été quelque peu modernisées. On n'avait pas fait beaucoup de progrès entre le Moyen-Âge et l'époque romaine sur le plan des machines de siège. On retrouvait les fameuses catapultes, c'est-à-dire des machines qui étaient des espèces d'arcs, si vous voulez, tendus par des ressorts très importants, des cordes, et puis qui balançaient des énormes blocs de rochers, des blocs de pierre sur les fortifications ennemies. Et au bout d'un temps, forcément, un bombardement répété par ce qu'on appelait, au Moyen-Âge, on n'appelait plus ça des catapultes, on appelait ça des pierriers. Mais c'était exactement la même technique. Et au bout d'un temps, forcément, ça finissait par déstabiliser la muraille et puis donc à provoquer des lézardes et ensuite des brèches. Seulement, les défenseurs pouvaient réagir en tentant de mettre hors d'usage le pierrier, soit par des sorties nocturnes, soit en essayant de l'incendier par le feu grégeois. Feu grégeois, c'était tout simplement du pétrole enflammé que l'on lançait. Alors pour éviter que les machines ne s'enflamment, on les arrosait ou bien on les recouvrait avec des peaux de bêtes fraîchement tuées. Enfin bref, il y avait tout un ensemble de techniques pour éviter ce genre de choses. Bien, on pouvait ensuite enlever des pierres de la muraille elle-même avec des leviers, des pics ou n'importe quoi, forcément, c'était un peu risqué parce que depuis le sommet de la muraille, on pouvait vous balancer des pierres ou d'autres joyeusetés pareilles, de l'huile bouillante, du feu grégeois, enfin tout ce qu'il fallait pour refroidir l'ardeur des défenseurs. Et puis enfin, troisième moyen, c'était les sapes. C'est-à-dire qu'on creusait des tunnels en dessous de la muraille, on étayait ça avec du bois, il fallait en avoir, ça ne courait pas les rues en terre sainte, et puis ensuite on y mettait le feu. Et quand les étais brûlés, forcément, le poids de la muraille faisait s'effondrer la sape et toute la superstructure, c'est-à-dire la muraille qui se trouvait au-dessus de la sape s'effondrait. Et puis il suffisait de monter à l'assaut ensuite, et puis d'entrer dans la ville par ce moyen-là. À côté des pierriers, il y avait une autre machine du même type, c'était un petit peu différent, on appelait ça le mangonneau. C'était un autre type de catapulte. Bon, les croisés aussi avaient adopté des Arabes, ou plutôt des Byzantins, le feu grégeois. Pour se protéger du bélier, parce qu'on avait aussi la moyen de forcer, de créer des brèches par des béliers, c'est-à-dire des espèces de grosses poutres avec un embout en fer, n'est-ce pas, en métal, qui était suspendu à une potence, et on balançait ça contre la muraille jusqu'à ce que la muraille soit ébranlée. Forcément, là aussi, le problème, c'était que depuis le sommet de la muraille, on pouvait vous lancer un certain nombre de projectiles pour tenter de décourager un petit peu l'ardeur des combattants. Et puis aussi, il y avait un moyen qui consistait à donner l'assaut par des tours en bois, qui arrivaient à une plateforme qui arrivait au sommet de la muraille, avec un pont basculant, et quand on était à distance suffisamment proche de la muraille, parce que la tour était placée sur des roues, il suffisait d'abaisser le pont sur la muraille, et puis on allait à l'assaut. Bien sûr, c'était très risqué aussi comme système, on imagine ce que ça pouvait donner, et il fallait là aussi un certain courage. Donc ce n'était pas une mince affaire de prendre une place fortifiée. Et ça, les croisés ont joué là-dessus. D'autant que pour se protéger justement de ce genre de choses, les croisés avaient creusé des fossés. Les fossés n'étaient pas remplis d'eau comme c'était le cas en Europe, parce que de l'eau on en manquait. Il n'était pas question évidemment de remplir les fossés d'eau, mais le fossé avait pour but d'empêcher que l'on approche trop près de la muraille avec des machines de siège, notamment des béliers. Maintenant, le château fort était protégé aussi par des tours, et chaque tour était une forteresse en elle-même. Ça veut dire que chaque tour était autonome dans sa défense. Si la muraille était percée, la tour pouvait tenir encore éventuellement des mois et des mois, ce qui se fera au dernier siège d'Akko, à la fin du XIIIe siècle, au moment du siège de la ville, de la chute de la ville. Les tours pouvaient également se flanquer l'une l'autre. Depuis les tours, les défenseurs pouvaient croiser leur feu. Et c'était donc extrêmement difficile de prendre un château fort. Sur le sommet de la muraille, il y avait la possibilité aussi d'amener des machines, puisqu'il y avait une épaisseur très importante. La vie dans le château fort n'avait rien de particulièrement... Ce n'était pas la dolce vita, loin s'en faut. C'était une vie même très spartiate. Chaque château avait ses propres structures, c'est-à-dire une chapelle, et puis des salles de fêtes, de choses semblables, où le seigneur pouvait éventuellement recevoir ses hôtes de marque. La plupart des châteaux de Terre Sainte appartenaient à des ordres militaires, si bien que, en général, ce n'était pas du tout comme en Europe, où il y avait des troupes. La colonisation franque, il y a eu une certaine sécurité qui a régné sur les routes, ce qui était aussi un minimum. Les embuscades arabes, les dangers d'embuscades arabes ont diminué, mais avant les croisades, les pèlerins qui ont fait des rapports sur leur pèlerinage racontent que c'était un spectacle tout à fait commun de voir sur les bords des routes tous les quelques kilomètres, les cadavres qui étaient en train d'être mangés par les bêtes sauvages, à moitié décomposés, etc. Enfin, c'était là. Le spectacle normal, quoi, que c'était tout très encourageant, bien sûr, quand on se promenait là-bas. N'importe comment, quand on faisait un pèlerinage là-bas, on se disait qu'on avait une forte chance de ne plus en revenir vivant, mais enfin, on était venu là pour ça souvent aussi, le but étant d'aller au paradis tout droit, bien sûr. Bien. Alors les ordres militaires ont tenté de maintenir l'ordre sur les routes, notamment dans les endroits dangereux. Et un certain nombre de châteaux forts ont été construits aussi pour contrôler des routes importantes et dangereuses. L'endroit où il y avait souvent des embuscades, c'était le cas de la Troune, on voit encore aujourd'hui d'ailleurs une forteresse britannique construite à peu près au même endroit où se trouvait une forteresse croisée, et pour la même raison. Malé Adoumim était aussi l'endroit où une forteresse croisée était construite pour contrôler cette route importante qui allait depuis la Transjordanie par Jéricho jusqu'à Jérusalem. Safed, nous en avons déjà parlé, qui contrôlait les routes qui passaient dans la vallée, de Jisréel, et la Troune contrôlait la vallée d'Ayalon. Se trouvait là la forteresse de Toron, ce que les croisés appelaient la forteresse de Toron. Bethel aussi, à l'endroit de non loin de Ramallah de nos jours, et puis jusqu'à Eilat, il y avait une forteresse aussi qui contrôlait cette route très importante. Maale Adumim, on appelait ça la route des pèlerins qui allait vers le Jourdain, puisque le Jourdain avait une valeur très importante pour les pèlerins. Ils allaient se tremper dans l'eau du Jourdain, ils allaient en boire, ça avait des vertus formidables. Ils en ramenaient chez eux et puis ça guérissait de toutes les maladies. C'est pourquoi, par exemple, même jusqu'à aujourd'hui en anglais, l'expression Jordan signifie une potion. Vous savez ça Parce qu'on ramenait des bouteilles entières d'eau du Jourdain, comme souvent d'ailleurs ça se fait aujourd'hui encore, et puis ça guérissait toutes les maladies, soi-disant. Alors il est évident que les pèlerins qui descendaient au Jourdain étaient souvent attaqués. Et le fameux Khan du bon samaritain qu'on montre aujourd'hui, en fait, est une fortification croisée, qui avait pour but de défendre justement les pèlerins qui descendaient jusqu'au Jourdain. En Galilée, il y avait la place de Montfort, qui était aux mains des chevaliers teutoniques, et qui avait aussi pour but de garder une des routes importantes qui permettait aux pèlerins d'accéder jusqu'au lac de Galilée, qui avait aussi évidemment pour eux une valeur mystique très importante. Outre les châteaux forts, la Terre Sainte s'est couverte pendant les croisades d'églises et de monastères, c'est évident. Et notamment, partout où il y avait un endroit qui avait rapport avec l'Évangile ou avec la Bible, les croisés ont construit une église, ou parfois un monastère, mais une église en tout cas, puisque automatiquement l'endroit avait valeur de relique, c'est-à-dire que de ce lieu qui avait été visité par la présence divine émanait une force spirituelle que les pèlerins venaient capter. Donc automatiquement, de la même manière qu'on met les ossements des saints sous les autels des églises que l'on construit aujourd'hui, de la même manière, il n'était pas nécessaire de mettre les ossements des saints puisque le lieu saint lui-même servait de reliquaire. Et alors on construisait sur le lieu saint une église. C'est la raison pour laquelle de nombreux visiteurs aujourd'hui du pays d'Israël sont fort déçus quand ils visitent Israël, parce que pratiquement dans chaque lieu saint, il y a une église qui défigure le site, n'est-ce pas ? Bon, alors les croisés ont construit des semblables églises un peu partout, ils n'ont pas été les premiers d'ailleurs à le faire, les Byzantins l'avaient fait avant eux. Mais enfin, les croisés ont été pris d'une véritable frénésie, d'une véritable rage de construction de structures de ce type-là, là où il y avait eu des souvenirs de l'Évangile, et là où il n'y en avait pas d'ailleurs, ils en ont créé pour les besoins de la cause. C'était l'époque où la vision des reliques avait batté son plein en Europe. Ça aboutira d'ailleurs, vous le savez, ensuite à la Réforme. Et c'est pourquoi on peut dire que la Réforme est un petit peu aussi la fille des croisades. Et donc, on ramenait évidemment de Terre Sainte des reliques, des tonnes de reliques. Alors, les plus intéressantes, évidemment, les plus prisées, c'était le bois de la vraie croix. Et chacun était prêt à faire n'importe quoi pour ramener le bois un petit peu du bois de la vraie croix, ne serait-ce qu'une mince copeau, c'est pas, puisque même divisée à l'infini, la relique ne perd pas son pouvoir. Hein. Si bien que si aujourd'hui on ajoutait toutes les morceaux de bois de la vraie croix qu'il y a dans les églises du monde entier, c'est pas un arbre qu'on constituerait, c'est une véritable forêt. Bon, on ramenait un morceau de la pierre du Saint-Sépulcre, alors ça, c'était évidemment très prisé, et alors, il y en avait même qui prenaient ça entre leurs dents, enfin, c'était incroyable. Alors là, on ramenait des tonnes de rochers aussi, là, le Saint-Sépulcre devait être un mausolée absolument extraordinaire. Bon, il faut ajouter les épines de la couronne du Christ. Alors ça, Saint-Louis a ramené ça dans de ses croisades et il a construit à Paris la Sainte-Chapelle, n'est-ce pas, pour abriter les épines de la couronne du Christ. Bien, on pourrait multiplier les choses, n'est-ce pas. Bon, la terre du champ où avait été dont le Seigneur avait pris le limon pour former Adam. Hein, ça se trouve à Hébron, ben ça vous avez aussi, on a ramené de la terre là, dans des reliquaires que vous avez un peu partout en Europe, vous avez de cette terre dont Adam a été modelé, qui se trouve là-bas, qui est aussi un objet saint, enfin bref. Donc il y a eu des collectes de reliques, et puis alors on s'attaquait, on se faisait la guerre pour se prendre ces reliques, enfin il y a un pillage, un trafic de reliques, quelque chose de considérable pendant les croisades. Alors il y avait restauration d'églises anciennes et construction de nouvelles. Il y avait également deux seigneuries ecclésiastiques qui étaient Nazareth et Lod, mais la puissance de l'église en Terre Sainte reposait essentiellement sur les monastères et leurs domaines. Il y avait environ une trentaine de monastères en Terre Sainte qui étaient donc des endroits qui avaient un statut d'extraterritorialité. La seule église qui reste, car toutes ont été détruites par les Mamelouks après la reconquête. La seule église qui n'ait pas été détruite est l'église d'Abou Ghosh, qui se trouve à une douzaine de kilomètres de Jérusalem, et qui était la dernière étape des croisés avant Jérusalem en 1095. Et les croisés avaient construit cette église sur l'emplacement d'une source dans laquelle ils voyaient Emmaüs. En fait, Emmaüs était à quelques 10 kilomètres plus bas, mais enfin, les croisés étaient passés après. Hein. D'ailleurs, quand ça pouvait réduire les frais de déplacement, ce n'était que tant mieux. Et là, ils avaient trouvé la maison de Clopas, Là où Jésus donc avait célébré, vous savez, le soir de Pâques, il avait rompu le pain avec les deux disciples d'Emmaüs. Alors on avait construit l'église là-dessus. C'était une église formidable, qui était une forteresse de pur style roman, le roman le plus classique qu'on trouve en Europe, très sobre, très belle d'ailleurs. Et les murs de cette et le toit d'ailleurs de cette église étaient tellement formidables que les Mamelouks n'avaient pas réussi à la démolir après la reconquête. Alors ils en avaient fait simplement une écurie qui restait telle d'ailleurs, écurie pour un camp militaire jusqu'en 1917, au moment de la reconquête par les Anglais, à l'époque à laquelle le gouvernement britannique a remis l'église d'Abou Ghosh entre les mains des franciscains français qui l'occupent depuis. Ils sont à ce territoire français jusqu'à maintenant. C'est la seule église de Terre Sainte qui reste intacte après les destructions qui ont été celles des Mamelouks. Bon, c'est de là que Tancred était allé délivrer Bethléem, nous l'avons vu. On trouve également, à cette époque-là, la création d'un ordre monastique nouveau, qui a directement à voir avec la Terre Sainte, mais qui n'est pas un ordre militaire comme les autres ordres que nous avons évoqués, mais qui est un ordre contemplatif, qui est l'ordre du Carmel, l'ordre des Carmélites, qui naît au milieu du XIIe siècle en relation avec la geste d'Élie. En effet, Élie, le prophète, apparaît à un certain Bertold de Calabre, qui sera le fondateur de l'ordre, et Élie lui ordonne d'aller créer un monastère sur le sommet du Mont Carmel. Bertold se rendra donc en Terre Sainte, et là, il créera l'ordre des Carmélites, dont le centre se trouve toujours dans ce monastère qui a été fondé par lui sur le sommet du Mont Carmel. Bon, les croisés reconstruiront aussi le mont de la quarantaine, l'endroit où le diable a emmené Jésus pour lui montrer tous les royaumes de la terre pendant les tentations, qui avait déjà été occupé par des ermites à partir du 5e siècle et qui avait été abandonné. Bon, sur le sommet du Tabor, qui a été conquis par Tancred, sur lequel les croisés voient le site de la transfiguration, ce qui est intenable bibliquement. La transfiguration eut lieu sur le mont Hermon, si l'on suit l'itinéraire des évangiles, mais comme c'était beaucoup plus simple pour les croisés de placer ça sur le mont Tabor, ben ils ont établi sur le mont Tabor. Et là, on voit comment ils ont bien compris l'évangile. Là où donc Jésus était apparu avec Élie et Moïse et où Pierre avait dit « Faisons ici trois tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse », les croisés ont construit d'abord une forteresse, bien sûr, c'est l'endroit stratégique demandé qu'on construise une forteresse, et à l'intérieur de la forteresse, trois églises, une pour Élie, une pour Moïse et une pour le Christ, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs et qu'on peut visiter, que les pèlerins visitent encore. Bien, l'emplacement du tombeau de Samuel, qu'ils avaient appelé Montjoie, puisque c'était depuis là, depuis Nabi Samuel, que les croisés avaient aperçu Jérusalem pour la première fois, ils ont construit un monastère aussi. Et puis, il y a eu évidemment dans le désert de Juda de nombreux ermitages où des poignées d'anachorètes déambulaient, comme l'avaient fait les Byzantins au 5e siècle avant eux, notamment à Wadi Kelt, à l'endroit supposé du baptême de Jésus dans le Jourdain, etc. Il y avait des petites communautés monastiques qui se sont créées pendant toute la durée des croisades. Voyons maintenant quelle était la vie quotidienne des croisés. Les croisés sont restés des Européens, mais ils se sont malgré tout orientalisés. C'était des gens qui continuaient à s'habiller à l'européenne, notamment la fameuse armure pendant les batailles qui pesait une trentaine de kilos. Autant vous dire que pour marcher, pour se déplacer, pour faire la course à pied, c'était très facile. Autant dire que quand on était par terre avec ça sur le dos, on était cuit. Au sens propre et au figuré. Mais ce qui les a... Là où ils se sont orientalisés, c'est par exemple sur le plan de l'architecture. Ils ont adopté l'architecture orientale pour leur maison, avec des toits plats. Ils se sont mis aussi à l'hygiène des Arabes, puisque là-bas, la chaleur veut qu'on se lave en général un petit peu plus qu'ils n'avaient l'habitude de le faire en Europe, où l'hygiène n'était pas leur fort. Donc, il y a eu construction de bains publics, de bains turcs et choses semblables. Les croisés n'avaient pas grand-chose à faire là-bas, s'ennuyaient beaucoup. C'est pourquoi l'essentiel de leurs activités consistait à faire des festins et des banquets. on mangeait beaucoup. La nourriture des croisés était riche en viande, gibier qu'ils chassaient, c'était à ça qu'ils occupaient l'essentiel de leur temps, poissons, bétail qu'ils élevaient, crustacés, et puis les produits locaux, fruits, légumes, etc. Autant dire que c'était pas très très bon pour la santé. Les croisés, au bout d'un certain âge, étaient en général assez gros, obèses, et en général, ils finissaient par un infarctus, ce qui était le résultat de ce genre de... C'est pourquoi le général ne faisait pas de vieux os avant Terre Sainte. C'était pas dû simplement aux maladies qu'il y avait là-bas, mais c'était dû aussi au fait qu'ils mangeaient très mal. Bon, ils avaient aussi découvert les délices de l'Orient, notamment le sucre de canne, si bien qu'ils mangeaient beaucoup de sucreries, des laitages, des fromages. En fait, ils n'ont jamais réussi à égaler le raffinement de la cuisine arabe, et les Arabes considéraient que la cuisine franque était extrêmement grossière et qui était toute basée sur la quantité, non pas sur la qualité. Pour se distraire, eh bien, les croisés avaient le choix entre la chasse aux bêtes sauvages, c'était l'époque où il y avait encore en Terre Sainte des grands fauves, et la chasse aux grands fauves était très prisée, mais les croisés étaient passés maîtres dans l'art de la fauconnerie, la chasse aux faucons, qu'ils ont partagé avec les Arabes d'ailleurs, et dans la vallée du Houla, par exemple, il y avait de nombreux gibiers que l'on chassait ainsi aux faucons. On avait aussi les courses de chevaux, les tournois, les échecs. L'ivronnerie est très, très répandue chez les croisés. Et puis, la prostitution, bien sûr, là aussi. On avait beau être pèlerin et pieux, les plaisirs de la chair étaient très prisés. Et souvent, non loin des églises et des monastères, il y avait des maisons de prostitution qui étaient très fréquentées, même par les moines. Ça n'a pas pour peu contribué à la démoralisation, d'ailleurs, des croisés, notamment au siècle suivant. Bon, on faisait aussi un peu de musique, il y avait des ménestrels, les mimes, les acteurs, enfin ça rappelle aussi un climat un petit peu actuel. La musique, les tambourins, les harpes, tout ça, bon. Il y avait également aussi une avancée qui est tout à fait notable pendant les croisades, c'est les progrès de la médecine. Les Arabes avaient une médecine qui était infiniment supérieure à celle des Occidentaux, et au contact des Arabes, la médecine des croisés s'est développée. Et les soins médicaux en Terre Sainte étaient nettement supérieurs à ceux qu'il y avait en Europe. Et c'est ainsi que là se sont créés des hôpitaux beaucoup plus perfectionnés que n'étaient les hôpitaux occidentaux, et notamment c'était le rôle des hospitaliers, les chevaliers de Saint-Jean, précisément leur nom indique quelle était leur vocation, qui ont fait le plus gros progrès dans le domaine de la médecine. Et c'est ainsi qu'ils ont créé des hôpitaux très nombreux dans chaque ville, où intervenaient à la fois et un minimum de 4 médecins et 4 chirurgiens, c'était la règle, des hospitaliers. Un hôpital digne de ce nom devait avoir un minimum de 4 chirurgiens, de 4 médecins. Bon, les arts et l'industrie étaient très très sommaires. Il n'était pas question de construire d'objets en bois parce que les forêts étaient quasiment inexistantes, c'est pourquoi on faisait un grand usage de la pierre. S'est développé aussi beaucoup à cette époque-là l'art de la verrerie que l'on a hérité des Arabes. Et aussi, les Arabes étant en contact avec la Chine, les croisés ont pris contact avec la civilisation chinoise. Le verre était connu déjà depuis l'époque des Phéniciens, mais c'était une spécialité locale. Et les Vénitiens en particulier étaient en contact avec la Terre Sainte, ont profité de cet art, de la verrerie qui a été héritée des Arabes. Et la verrerie vénitienne ensuite a connu un très très grand essor dans l'Europe de la Renaissance. On trouvait des restes de verrerie, notamment près d'Aco. Et puis aussi sur le plan textile, on a commencé à utiliser la laine de chameau, la soie, qui était inconnue aussi en Europe jusqu'alors, le satin, qui sont devenus le monopole du roi de Jérusalem. Sur le plan aussi des eaux thermales, on a commencé à utiliser notamment les sels de la mer Morte, dont on a tiré des savons, qu'on ne se construisait pas jusqu'alors. Et puis évidemment, il y avait tout le commerce des choses saintes, des objets de piété, choses semblables que l'on ramenait de là-bas. Bon, le pays, malgré le fait que c'était un pays très sommaire, les croisés le louent pour sa richesse et pour sa fertilité. Il y avait néanmoins souvent des tremblements de terre qui le dévastaient. Et alors, sur cette richesse du pays, il y a de nombreuses légendes qui couraient pendant le Moyen-Âge, sur les nombreux miracles qui s'y opéraient et qui avaient pour but de, d'attirer évidemment d'autres colons. Il y avait par exemple des miracles de guérison, de morsure de serpent dans la région de Jéricho, etc. Enfin, toutes sortes de légendes de ce type-là qui faisaient que de nombreux malades venaient en Terre Sainte en espérant aussi être guéris de leur maladie. Voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'était la vie des croisés, comment étaient organisés les États latins de Jérusalem pendant toute cette époque du XIIe siècle. Et on peut dire qu'avec le XIIe siècle, on peut déjà faire un premier bilan des croisades. En fait, c'est une aventure, nous l'avons vu, qui va avoir peu de conséquences sur le plan de la civilisation, mais sur le plan de l'évolution de l'histoire de l'Église, de très grandes conséquences, car la conséquence va être essentiellement la Renaissance et la Réforme qui vont en sortir. Bon, il y a eu une petite révolution commerciale au XIIe siècle qui a été le résultat de ce contact avec l'Orient. Mais en fait, ce que les croisés ramèneront de ça, c'est peu de choses. La boussole et la carte marine qui ont quand même pour but de permettre les grandes découvertes. Et puis le verre à soie, la verrerie, les produits de luxe. Enfin, peu de choses en fin de compte. Et le bilan est quand même en fin de compte très peu important. Bien, est-ce que vous avez quelques questions à poser sur ce que nous avons dit ce soir ?